Bonjour à tous, c'est le samedi, c'est le week-end, vous vous relaxez ou pas, en tout cas nous on est là, 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Je vous rappelle d'ailleurs l'adresse hein, pour ceux qui n'ont pas encore shooté, shot your shot, envoyez votre question cqfr.rivers@gmail.com. Théo va lire votre question, il la sélectionnera peut-être et on y répond, en tout cas on essaye d'y répondre avec Shai du mieux possible. Shai qui est à mes côtés tous les samedis maintenant, c'est votre nouveau rendez-vous. Et il y a Théo aussi qui est là, il est là en off, vous ne le voyez pas mais vous l'entendez, c'est l'homme de l'ombre, c'est notre éminence grise, cardinal Richelieu, cardinal Théophile.
Ça envoie du lourd. On sent que c'est la fin de semaine, merci, je suis ravi d'être avec vous, merci encore une fois pour tous les messages, toutes les questions que vous nous envoyez. J'en profite, allez, je vais faire comme dans les radios libres, par des petits remerciements. Merci à François-Xavier pour m'avoir envoyé un son de Killer Army que je ne connaissais pas, Winter Wars 2, si vous aimez le rap US vous pouvez y aller. Merci aussi à Florent de m'avoir aussi envoyé du son, Cruza et Bass, je ne connaissais pas du tout non plus, donc voilà, merci, n'hésitez pas, on lit tout ça avec plaisir, tous les messages trouvent leur destinataire, voilà, c'est, ça fait plaisir de voir que c'est à double sens les échanges avec l'équipe.
Yes, bah, t'as bien raison. Et du coup, maintenant, on va te rebaptiser Romano.
Romano de Skyrock.
Pour ceux qui ont la ref. Non, pardon. Ouais, bah, Théo, écoute, on va te passer la main. On va te laisser. Je pense que Shai est déjà chaud. T'as l'air chaud, Shai.
Totalement, enfin, absolument. Voilà.
Alors attention, en plus j'ai une super première question, des fois on se rend pas compte à quel point nos podcasts ou nos émissions peuvent porter, il y a même des gros prospects du basket français qui nous écoutent, donc attention, première question donc d'un gros prospect du basket français, le jeune Timothée Omesser a une question à vous poser, 8 ans. Donc au-delà de me demander d'arrêter de menacer Shai et Antoine chaque semaine et que j'arrive pas à lui expliquer que c'est pas vrai et que ce ne sont que des mensonges, il a une question pour vous, authentique, donc attention. Selon vous, quel personnage de film serait Michael Jordan? Si Michael Jordan était un personnage de film, lequel serait-il?
Alors, attends,
Superman qui aurait mal tourné, tu vois.
Homelander un peu. Homelander de The Boys. c'est dur, un personnage de film. Est-ce qu'il peut être lui-même dans Space Jam ou pas? Non, il est trop gentil dans Space Jam.
Ce serait un peu trop facile.
Ouais.
Petit côté Batman, mais...
Ouais. Bah, il faudrait retrouver le côté un peu tyrannique, un peu leader par le... Tu vois, intimidant, je sais pas. C'est pas facile. Hein. Un mix entre.
Après, il est. T'as une idée, Théo, d'ailleurs ? Pardon, vas-y. T'as une idée, Théo, au passage ?
Non, pas partout. Je peux vous donner sa réponse, Timothée.
Ah, bah, ouais.
Pour moi, ce serait Wally, parce qu'il ne lâche jamais rien.
Ah, Wally, le petit robot.
Ouais.
Ah, j'ai pas vu ce Disney.
Alors, pour le côté déterminé et. Et Relentless, ah, c'est pas mal. J'avoue que j'ai pas d'idée comme
Belle
ça.
Belle réflexion.
Mais, il était surnommé le Black Cat. Alors, est-ce que ça peut être Black Panther, genre le leader de toute une...
Ah, mais Black Panther n'était pas tyrannique.
Non, c'est vrai.
Mais ça peut être un super-héros, effectivement.
Ouais, il a un côté super-héros quand même, pour le côté plus grand que nature, plus...
J'aime bien le côté Batman un peu avec le vice.
C'est un peu Batman et le Joker ensemble.
Ouais, voilà, exactement, parce que Batman c'était pas un assassin, quoi.
Pour la fortune aussi, c'est bien. Ils sont blindés tous les deux.
Je transmettrai, de toute façon, il écoute par lui-même maintenant. Attention, il met des commentaires sur Spotify. Oh. Bref, allez, j'enchaîne une question qui va plaire à Antoine. Une question de Amato Yoshi au sujet de. Donc, vous allez voir, donc, au-delà des petits remerciements et félicitations qu'il nous donne, donc merci pour ton gentil compliment. Voilà, il voudrait que vous développiez votre réflexion autour de l'avenir des Blazers. Pour moi, donc, selon Amato Yoshi, pour moi, il ne fait aucun doute que le coach Billups n'est absolument pas adapté à la situation. Il est profondément limité. Son envie de voir progresser ses jeunes gars ne suffit plus. Ça pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut attendre du ou d'un futur coach de Portland en termes de jeu? Avec un tel effectif, il y a quelque chose à faire, sachant par ailleurs qu'on va être bien situé lors de la draft. Quand je vois les performances actuelles de Domine quand il veut Ayton, nous, supporters de la franchise, devrions être optimistes. Cet axe 1, entre parenthèses 2-5 est excitant, pourtant je n'arrive pas à savoir ce qu'un autre coach avec une philosophie bien plus pragmatique pourrait mettre en place autour en termes d'animation. Et je dis ça alors que j'adore les mecs qu'on a actuellement, exemple Jabari Walker ou Toumani Camara. Quid d'un mec comme Jeremy Grant ? En d'autres termes, j'ai besoin qu'Antoine m'explique comment on va arriver jusqu'au titre en 2029, parce que vous l'aurez lu ici en premier, la saison 2028-2029 sera la nôtre. Antoine, raconte-nous cette histoire.
2029, ça me semble très court. Alors, en termes d'animation sur le plan tactique, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas de... Genre, je ne vois pas quel coach pourrait vraiment créer un jeu collectif autour des talents en place, c'est-à-dire qu'Anferni Simons, Shedon Sharpe, Scoot Anderson, c'est des super joueurs. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est des mecs qui sont capables de créer un collectif. Du coup, il faudrait un coach capable de... vraiment inculquer des valeurs et des notions collectives à tous ces mecs-là. Je ne dis pas que c'est nécessairement des persos, hein, mais c'est des joueurs qui vont jouer, c'est vachement des slasheurs. C'est un peu le problème, je trouve, à Portland, c'est qu'il y a... Après, Simmons, il prend 9-3 points par match, je pense, un truc comme ça. Hein. Il peut te mettre un paquet de tirs extérieurs, mais c'est quand même des mecs qui veulent le ballon, qui ont besoin du ballon. Comment tu crées un système autour de ça, je ne sais pas trop. Tu vois, c'est un peu plus compliqué, mais tu as moyen de développer en tout cas plein de jeunes talents. Moi là, au-delà d'un mec qui réfléchirait déjà sur l'aspect tactique, stratégique, je pense que Portland en est malheureusement encore un peu loin. J'aimerais un gars qui est capable de développer ces mecs là, de les développer individuellement, et si après en plus il arrive à les développer collectivement en instaurant des valeurs de jeu et des principes de jeu, ça serait parfait. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin, même si j'aime bien le noyau dur de Portland, le jeune noyau dur, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et j'ai peur qu'il manque un truc, notamment pour l'avenir. Je vois par exemple Detroit, qui a mis du temps à décoller malgré la présence de Kate Cunningham et qui n'est toujours pas en train de décoller. Il y a pourtant un noyau dur intéressant. Il n'y a pas forcément une grosse superstar, même si je pense que Cunningham a un potentiel quand même de joueur All-Star. Je me demande aussi à Portland, est-ce qu'il y a ce vrai mec qui sera ton alpha dog. Peut-être ça sera Simons, mais je ne suis pas non plus encore complètement convaincu, même si j'aime beaucoup le gars. Peut-être que ça sera Sharp. Il est parfois comparé à Paul George. Il a un vrai potentiel, mais est-ce que ça sera vraiment lui la locomotive de l'équipe? Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a un peu plus de talent qu'à Detroit, mais voilà, je ne sais pas encore est-ce qu'il y aura cette locomotive qui va vraiment tirer ton équipe vers le haut. Et j'ai l'impression que c'est au final l'objectif quand même quand tu es en reconstruction, c'est de te trouver ton mec qui sera la pierre centrale de ton projet. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas à Portland.
Moi, j'aime bien le modèle Houston où, alors bon, là, ils ont, semble-t-il, trouvé leur gars avec Shane Goon, mais au niveau de l'approche du coach, c'est-à-dire que je trouve que Udoka a déjà bien fait progresser des joueurs qui me semblaient, ça me semblait être un petit peu le foutoir ces derniers temps à Houston. La saison précédente, on savait pas, tout le monde jouait un peu pour sa pomme. Et ce dont tu parlais d'inculquer des valeurs, une façon de faire, il y a la tactique qui est importante, mais je pense pas que Billups soit catastrophique tactiquement. C'est un membre du Hall of Fame, c'est un mec qui connaît le basket, mais c'est plus sur l'ensemble, ouais, la fameuse culture de jeu, toutes ces choses-là, du professionnalisme. Il y a certainement quelque chose à creuser là-dessus. Donc moi, mais avant Billups, il y avait Becky Hammon qui avait été contacté. Hein, ça m'en fait penser à ça. Je pense qu'il ne s'en serait pas trop mal sorti si ça avait été elle, la coach. Il faut quelqu'un qui a cette approche-là, je pense. Pas du tanking éhonté, une courbe de progression intéressante, des joueurs responsabilisés. Et il manque peut-être le joueur, l'alpha dont tu parles. Il manque peut-être ce joueur-là. Je le vois pas pour le moment. Scoot Anderson, sa saison 2, peut peut-être révéler cette personnalité-là, ce joueur-là. Ce n'est pas impossible. Mais auquel cas, sinon, ils devront trouver le joueur autour duquel articuler le projet. Mais je suis d'accord, je pense que Billups n'est pas l'homme de la situation et que ça va et doit changer.
Je me demande quel sera le vrai meilleur playmaker de cette équipe. Tu vois, est-ce que... Simon, je sais qu'il y a beaucoup d'espoir, c'est le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui, mais depuis le début, malgré le fait que c'est un joueur que j'aime bien, malgré le fait que sa progression elle est palpable... Depuis le début, j'ai du mal à l'imaginer vraiment en joueur All-Star, par exemple, malgré ses stats. Hein, j'ai toujours du mal à me dire que Simon sera vraiment un All-Star ou un multiple All-Star. J'ai toujours du mal à me dire, genre, entre Simons, Anderson et Sharp, j'arrive pas à savoir lequel arrivera à vraiment être non seulement un très bon joueur, mais aussi un mec qui rend les autres meilleurs. Ce qui est encore une notion encore plus délicate, encore plus difficile. dans le CQFR d'hier, je prenais l'exemple de Zach LaVine pour Jalen Green. Là, c'est un peu le même truc. Tu vois, Zach LaVine, individuellement, il est devenu très, très, très fort, mais je n'ai pas l'impression qu'il rend nécessairement les autres meilleurs. Et c'est un peu ça avec les Blazers, c'est de me dire lequel d'entre eux. Genre, Anderson, ça sera un bon passeur parce qu'il va driver, il va prendre des pick and roll, il va avoir des espaces, mais je ne sais pas dans quelle mesure ça sera vraiment un playmaker qui fait rayonner tout ton jeu. Si Sharp, il ajoute ça à sa panoplie, parce que Sharp, je pense que ça va devenir un scoreur vraiment très, très, très fort. Si Sharp, il ajoute ça à sa panoplie comme Paul George l'a fait, pour rester sur cette comparaison-là avec Paul George, là, les Blazers auront peut-être leur tête d'affiche. Mais là, je vois surtout des jeunes talents qui vont être tous très intéressants individuellement. Et c'est pour ça que la question sur comment les faire jouer ensemble, bah, je ne suis pas sûr qu'il y ait un coach qui ait vraiment la réponse pour l'instant. C'est de savoir lequel d'entre eux peut se développer en tant que playmaker qui rend les autres
meilleurs. Ouais. Du coup, on n'a même pas intégré DeAndre Ayton dans la dans la réflexion au final, mais ouais.
Parce qu'on sait que ça sera pas la pierre angulaire, mais par contre, je trouve que c'est un joueur vraiment intéressant à avoir en fait. Ayton, il a ses défauts, il a ses trucs, et il a déjà 25 ans, hein, mais ça, on en revient toujours. Hein. S'il joue dur, en fait, c'est le pivot que tu veux dans la NBA actuelle. Il est à la fois grand, à la fois costaud. À la fois, il est plutôt adroit, il est agile. C'est pas un mauvais passeur. Ça se voit pas beaucoup, mais je trouve que c'est pas forcément un mauvais passeur parce qu'il a plutôt des bonnes mains. Lui, c'est plus toujours une question de volonté. Et je pense que juste, il est pas assez fort pour que tu construises une équipe autour de lui. On en parle souvent, mais pour que tu construises une équipe autour d'un pivot, faut que ça soit Jokic, Embiid, etc. Lui, je pense que ça sera jamais le cas pour Ayton, mais je pense que c'est un super complément en fait.
Et puis reste aussi la question Robert Williams, si un jour il va retrouver le chemin des terrains.
Ouais. Ouais.
Allez, on va passer de l'ancienne équipe de Damien Lillard à la nouvelle équipe de Damien Lillard. Une question qui nous a été envoyée par, alors je pense que c'est comme ça, Zozo5150. Alors juste pour remettre un petit peu en contexte, la question est arrivée en début de semaine, il me semble. Mais voilà, une petite question sur les Bucks. Vous disiez il y a quelques jours que les Bucks avaient récupéré leur statut de deuxième meilleure équipe de l'Est. Ces derniers jours, vous semblez en douter davantage. Personnellement, les Bucks n'ont jamais convaincu depuis le début de saison. Au-delà d'un Giannis MVP-esque, les Bucks champions avaient surtout un grand Chris Middleton. Aujourd'hui, il n'a que le sixième temps de jeu de l'équipe, avec un impact bien moindre. Ils ont en plus tradé un des meilleurs défenseurs de la Ligue, Jrue Holiday, contre Damien Lillard, qui n'y est pas et leur banc fait pitié. À côté de ça, les Knicks au complet, après la trade deadline, ont réalisé des chiffres semblables à ceux des Knicks de 1994. Ces Knicks-là avaient atteint les finales NBA. Les Bucks sont-ils réellement la deuxième meilleure équipe à l'Est ?
Waouh, oui, quand même. Enfin, oui, c'est sûr que entre quelques jours à quelques jours d'écart, la perception peut un peu changer. On peut être critique d'une performance en particulier, d'un match en particulier, mais sur la simple qualité de l'effectif, oui, c'est quand même la deuxième meilleure équipe. Ça ne veut pas dire que, on en a discuté cette semaine aussi avec Antoine, je ne suis pas persuadé que les Bucks aborderaient un rendez-vous avec Miami, on en parlait avec sérénité, mais juste, ne serait-ce que sur le papier et les ambitions, ils sont obligés d'être, c'est forcément la deuxième meilleure équipe. Yanis et Lillard, on en parlait ce matin, hier dans le CQFR d'hier, Antoine, Lillard monte en puissance, il devient le... C'est même pas un sidekick, c'est un numéro 1 bis. Normalement, Lillard, il devient ce joueur-là offensivement. Middleton revient petit à petit, le temps de jeu est en augmentation, ses performances sont bonnes. Il y a des choses positives qui font dire que Milwaukee, est bien la deuxième meilleure équipe de l'Est. Presque, ça peut aller en finale de conférence. Ça devrait, mais c'est pas une certitude, parce qu'il y a toutes les réserves qui ont été évoquées là, sur la défense, sur d'autres choses aussi. Mais ouais, je pense que c'est la deuxième meilleure équipe, ça ne veut pas dire que c'est celle qui va arriver en finale de conférence.
Je vais donner une stat que je vais aller chercher du coup pendant ce temps. Le 5 majeur, le vrai 5 majeur des Bucks, donc celui avec Damian Lillard, Chris Middleton, Malik Beasley, Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo, 5 qui a peu joué ensemble, enfin il a quand même 527 minutes au compteur. Ce 5-là, il a un net rating de plus 15,7. Tu vois, donc les Bucks au complet, c'est pas les chiffres des Knicks de 94, c'est les chiffres de la meilleure équipe de la Ligue, tu vois. Si tu prends plus 15, je vais essayer de vous trouver en vitesse celui du 5 majeur des Celtics. Donc, on est à plus 15 pour le 5 majeur des Bucks. Le 5 majeur des Celtics, c'est plus 12. Voilà, ça vous donne un petit élément de comparaison. 5 majeur des Celtics, plus 12. 5 majeur des Bucks, plus 15. Alors, c'est qu'un net rating. Évidemment, l'échantillon… Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'échantillon est quasiment le même en nombre de minutes. On est autour des 550 pour le 5 majeur des Celtics. Après, ça dépend. Évidemment, si à un moment, tu mets un énorme carton contre Washington, ton net rating, il augmente, etc. Mais tout ça pour dire, les Bucks au complet, quand Middleton est là, C'est une vraie, très, très, très bonne équipe. Et je pense que c'est vraiment la deuxième meilleure équipe à l'Est. Elle a des plus grands talents que New York. Elle a des plus grands talents que Cleveland. Elle a des plus grands talents que Miami. Elle a une bonne défense. Elle a un super closer. Elle a un très bon lion, un joueur qui amène... T'imagines quand Chris Middleton, ça devient ta troisième option claire, pas juste peut-être ta deuxième... Tu vois, quand il y avait Holiday, au final, Middleton, c'était toujours la deuxième meilleure option offensive. Et on se disait même, est-ce que ce n'est pas un peu limite pour gagner un titre? Tu vois, ils sont allés en chercher un, mais on se posait des questions. T'imagines, tu es obligé de finir avec Middleton. Là, Middleton, pour moi, il est dans le rôle parfait. La seule question, c'est évidemment son état de santé. Il revient en forme au moment des playoffs, c'est parfait. S'il est à 100% en playoff, il n'y a aucun doute sur le fait, en tout cas, il n'y a aucun doute pour moi que Milwaukee est la deuxième meilleure équipe de l'Est et la seule qui peut bouleverser Boston et peut nous offrir peut-être une très belle finale de conférence si ça devenait à être le cas. Moi, j'espère qu'on l'aura. On ne l'a pas eu l'an dernier. Miami a déjoué le truc. Ils ont sorti Milwaukee. Il n'y avait rien à dire. Ils ont écrasé Milwaukee. Ils ont fini par battre Boston aussi. J'aimerais bien que l'an dernier, on espérait avoir cette série. J'espère vraiment qu'on l'aura cette année, hein, Milwaukee-Boston. C'est pas histoire d'être fan de Bucks ou des Celtics, c'est que juste il y a possibilité d'avoir une série absolument fantastique entre les deux.
Allez, on va rester du côté de Milwaukee avec une question de Benjamin qui concerne Giannis. Alors, je sais pas, Benjamin qui vient de voir le documentaire qui est sorti sur Amazon Prime sur Giannis Antetokounmpo qui s'appelle Giannis, l'incroyable destin. Donc, je sais pas si vous l'avez vu l'un ou l'autre. Je l'ai noté dans ma liste de films à voir, mais je l'ai pas encore vu.
Pareil, exactement pareil.
Ok, bon, bah, très bien. Donc, voilà. Donc, première chose que note Benjamin, c'est comment ne pas aimer et respecter un tel joueur. Ça, effectivement, je pense que le documentaire doit renforcer encore cette impression, mais c'est une question qui semble, voilà, la réponse semble tout trouvée. Voilà, sa question est la suivante. Moqué pour sa phrase sur l'échec en conférence de presse de playoff l'année dernière, cette même phrase dans le contexte de fin du film prend tout son sens et ne rend-elle pas plus humain le sport et plus relative la notion d'échec? Donc je pense que même sans avoir vu le film, on imagine à peu près à quoi ça doit faire référence. Donc peut-être voilà cette question autour de la notion d'échec dans le sport de haut niveau et par rapport à Giannis, qu'est-ce que ça vous inspire?
Est-ce qu'il a vraiment été moqué? Je ne sais pas s'il a été moqué. C'est peut-être plus que critiqué.
Critiqué, ouais.
Voilà, critiqué, parce que c'est pas devenu une blague, quoi. C'est juste, ah ouais, attends, si lui il considère que ça c'est pas un échec, alors qu'ils ont une grosse équipe, qu'ils ont été champions et tout. Donc, si évidemment que la notion d'échec elle a relativisé. Les athlètes la vivent pas l'échec de la même manière. Alors surtout ceux qui ont déjà gagné. Là, peut-être que lui il a voulu relativiser comme ça aussi. Il a une vie extrêmement, une jeunesse extrêmement difficile, comme beaucoup. Personne n'a la même approche, c'est pour ça que c'est difficile. Moi, j'ai pas tiré à boulet rouge sur Giannis pour le truc sur l'échec, parce que je considère aussi qu'il y a des choses qui sont plus importantes que le basket. Alors ça, peut-être que les athlètes qui pensent comme ça ont pas la Mamba mentality et autres philosophies et concepts là-dessus, mais moi, ça m'a pas choqué, et en même temps, je peux comprendre qu'on ait le point de vue inverse. Hein. Enfin, c'est-à-dire que factuellement, c'est un échec sportif. Mais après, est-ce que c'est un échec qui justifie un lifting total? Dans la foulée de cet échec ou non-échec, il y a quand même eu des changements à Milwaukee. Donc, c'est que lui-même est à l'initiative de Giannis aussi. Il a eu son mot à dire là-dedans. Donc, il a quand même considéré que c'était un échec quelque part, vu qu'il a fallu changer des choses. Donc, c'est... Voilà, moi c'est ce que je pense. C'est pas... à la fois, je le comprends. Je comprends comment qu'il ait voulu... et c'est peut-être ce qui est illustré dans le film, que je l'ai aussi noté. Je vais le regarder, je pense, même si... on connaît plutôt pas mal les grandes lignes de son histoire. Mais ouais, c'est ce que... Moi, j'avais pas été choqué par ces déclarations, et je les comprends plutôt.
Moi non plus, j'avais pas été choqué. J'avais même bien aimé, moi, sa déclaration. Je pense qu'en fait, c'est pas forcément contradictoire ce qu'il a dit et le fait que c'était un échec. Je sais que ça semblait bizarre, mais bien sûr que quelque part, c'est Milwaukee... devait gagner, tu es premier de conférence, tu as dominé ta conférence, tu te fais sortir par huitième. Il y a évidemment une notion de raté, mais j'avais bien aimé sa décla et j'avais trouvé les critiques, hein. Je n'avais pas été fan des critiques. J'aime bien la manière de réfléchir de Giannis la plupart du temps, je trouve que ça sort un peu du lot et il y avait une réflexion derrière. Et après, en plus aussi, il ne faut pas oublier le fait que c'était sans doute à chaud et qu'il y avait évidemment de la frustration au moment de sa déclaration de toute façon.
Oui, j'en profite pour vous préciser que voilà, cette question, en tout cas autour de la défaite, elle est au centre du MOOC numéro 13 qu'on avait intitulé Loser, qui était justement d'interroger cette notion. Est-ce qu'on est un loser quand, est-ce qu'on peut être un loser quand on est déjà l'un des meilleurs 450 joueurs de la planète? Qu'est-ce que c'est que la défaite? Qu'est-ce que c'est que la victoire? Voilà, c'était vraiment la déclaration de Yannis avait été une des choses qui nous avait poussé à faire ce numéro. Donc, si la question vous intéresse, je rappelle que ce MOOC est toujours disponible sur la boutique de basketsession.com. Voilà,
Je vais juste ajouter un truc sur
Ouais.
parce que j'y pense parce que en anglais entre l'anglais et le français le terme utilisé il me paraît beaucoup plus fort en anglais entre le failure et échec dans le fail il y a la notion de tu fails les autres tu vois c'est-à-dire que tu déçois les autres tu déçois les attentes des gens tu échoues vis-à-vis d'eux aussi l'échec en français bon bah tu rates mais c'est moins fort donc je trouve que le terme c'est aussi pour ça qu'il l'a je pense qu'il a réagi comme ça parce que c'est beaucoup plus fort que ce que nous on ressent quand on entend le mot échec, je pense. Mais bon, c'est avis personnel.
Allez, j'enchaîne avec une question de Simonette, à qui on passe un grand bonjour et qu'on remercie chaleureusement pour le message qu'il nous a envoyé. Voilà sa question. Donc attention, c'est une question qui s'adresse aux hipsters déçus qui sommeillent en vous. Quels sont les joueurs NBA en qui vous aviez vu quelque chose de spécial que les autres n'avaient pas forcément vu et qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes? Autrement dit, votre chouchou dont vous étiez fier et à propos duquel vous disiez à vos potes, lui, il va vous surprendre, vous n'êtes pas prêt, souvenez-vous que c'est moi qui vous en ai parlé et qui s'avère être une énorme déception qui n'aura jamais la carrière que vous lui aviez prédite. Ce que les potes en question ne se gênent pas de vous rappeler. À la base, je pense plutôt à des joueurs un peu niche, entre guillemets. Un des miens était Jordan Bell. Je le découvre à Oregon. Petit coup de cœur. Arrive aux Warriors. Gagne un titre en participant de manière très correcte. J'imagine pour lui une carrière à la PJ Tucker comme plancher. Qui sait, sous l'aile de Draymond Green, il peut devenir encore mieux qu'un role-player. Et il disparaît très vite, ne s'installe nulle part et finit en Chine avant la trentaine. Si vous n'avez pas d'exemple de ce titre, ça peut être des busts plus médiatisés sur lesquels vous aviez sorti un take que vous regrettez amèrement. Exemple, Jennings, Parsons, voire même Rondo, dont je rêvais qu'il devienne un vrai franchise player.
Moi j'ai les deux, je pense. J'ai un lottery pick et un mec un peu niche. En lottery pick, même dans la rédaction encore aujourd'hui, on se moque de moi pour avoir défendu bec et ongles Frank Ntilikina, pour avoir cru qu'il ce serait un stoppeur d'élite en NBA qui serait incontournable. Et ben, bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait comme ça. Il n'est plus dans la ligue aujourd'hui. Bon, il a encore une carrière internationale et je pense qu'il sera bon en Europe à un moment, mais c'est évidemment pas ce que j'attendais pour lui. Et pareil dans la rédac, vous connaissez aussi mon amour pour Hakeem Warrick, ancien de Syracuse, champion NCAA avec Syracuse, avec Carmelo, et drafté quand même au premier tour, hein, c'est pas non plus un joueur de l'ombre. 19e pick, 19e pick de quelle année? Warrick 2005. Ouais, Warrick 2005. Il était tellement fort athlétiquement à la fac, des énormes dunks, des très très gros contres, et dans une NBA qui n'était pas encore totalement. Ce qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas encore ultra tournée vers le stretching, les tirs à 3 points. Je le voyais être vraiment, vraiment fort. Peut-être pas dominant et superstar, mais je le voyais. Je l'imaginais avoir une carrière de. Pas comme Carmelo, parce que Carmelo, c'était la superstar en arrivant, mais qui profite un peu du rayonnement et que les deux de Syracuse qui avaient été champions l'année du titre ben, réussiraient une belle carrière. Et Hakeem Warrick aussi, malheureusement, il a une carrière un peu anecdotique. Voilà.
Moi, je suis très mauvais à ces trucs-là parce que j'oublie Ntilikina, clairement. Désolé, hein, je sais que c'est le même exemple, mais ça, c'est vraiment un joueur auquel je croyais. Je pensais qu'il allait vraiment se faire sa place en NBA. Là, comme ça, je suis désolé, je suis vraiment nul sur ces questions-là. Pour te dire, j'avais DeAndre Hunter qui me venait en tête, mais
Oh,
il
c'est
n'est
pas encore un
pas.
échec.
Voilà, exactement, il fait plutôt une bonne saison.
Traduction, Antoine essaie de nous dire qu'il ne se
Non,
trompe
non, non,
jamais.
non, 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 pas du tout. Il y en a. Bah, après, mais il y
Je
en a.
plaisante.
C'est pour. Tu vois, par exemple, je peux pas dire Romeo Langford. Je sais pas si tu te souviens. J'ai un
Oui,
truc
bien
avec
sûr,
Romeo
mais parce
Langford.
que t'aimais
Mais
bien son nom.
c'était le nom. Je disais, il a un nom de star. C'est un mec qui va forcément percer. Il s'appelle Romeo Langford. Tu vois, comment tu veux que ça devienne pas un mec qui tourne à 20 points par match? Mais c'est pas vraiment genre un instinct. Genre ah, je l'ai vu et je me dis non, lui, il va forcément être fort. Après, il y en a forcément. Juste, je n'arrive pas à. Quand on nous
Ça me
pose ce
fait
genre de questions, à chaque fois, je n'arrive pas à mettre les doigts dessus. Il faut que que je
penser à
retombe
un
sur le
truc
mec
aussi.
par hasard, en fait.
Ouais. Je repense à un truc du coup parce que tu parlais du fait en les voyant et je sais plus où j'ai sur Twitter ou dans un commentaire YouTube, mais j'avais parlé de l'exemple de Jabari Parker aussi parce que pour le coup lui c'est en le voyant en live à un camp de Kevin Durant pour les ailiers et il n'était pas encore à il allait rejoindre Duke et il était tellement fort, enfin tellement au-dessus du lot par rapport à tous les mecs qui étaient là et qui étaient déjà des joueurs universitaires, certains jouant en NBA après, et il me paraissait tellement fort. Et derrière, il avait été drafté en troisième position. Deuxième ou troisième, c'est, j'ai oublié. Deuxième.
Deuxième. Deuxième.
Deuxième. Et puis, ben, je pensais vraiment qu'il percerait. Il avait tout, le physique, le talent pour. Et il a été blessé très, très tôt et très souvent. Et après, ça a pas, il n'a jamais réussi à revenir correctement. Donc, voilà. J'ajouterais Jabari Parker là-dedans.
Parce aussi des joueurs auxquels je croyais, pour le coup. Parce que j'ai écrit un article dans Rivers.
Ah oui, ouais, mais Denis, il a pas. C'est tout, ça va, Denis, tout va bien. C'est juste qu'il a un mauvais contexte. Sortez le mois de Washington,
nous,
vous allez.
Il nous dira encore ça dans 10 ans, Shai.
Il va très bien, Denis Avdia. Vous inquiétez pas.
Fait une belle saison.
Attendez de le voir ailleurs, surtout.
Dans 15 ans, Shai. Non, mais il est à la retraite. Là, il est dans un mauvais contexte. Sortez de la retraite et vous allez voir.
Pour rester avec les Warriors, Jordan Poole quand il est avec les Wizards, Jordan Poole quand il était aux Warriors. Moi, je pensais que j'avais pas réalisé à quel point c'était. En fait, j'avais pas capté la personnalité derrière le gars sur le coup. Sur la saison, il est champion, où ils sont champions. Je me souviens qu'en cours de saison, je disais déjà, mais lui, c'est vraiment c'est le mec le plus nouveau mec important aux Warriors. Et c'est vrai que la chute est terrible.
Allez, une question de Mickaël. Est-ce uniquement mon sentiment ou est-ce que cette saison NBA laisse pour l'instant un sentiment mitigé ? Entre Boston qui surdomine la conférence Est et de gros favoris comme Milwaukee, Phoenix et les Lakers qui galèrent à différents degrés, cette saison me donne l'impression d'une saison de transition. Qu'en pensez-vous ?
Bah, la transition, elle est due au fait que le changement de génération, je pense au niveau des Curry, Durant, LeBron, on sent qu'on est sur une fin de génération et de savoir un peu qui va prendre le relais au niveau visage de la Ligue, mais je n'ai pas forcément ce sentiment-là sur la saison régulière. Je trouve que la saison régulière est quand même plutôt très intéressante, notamment à l'Ouest. Après, c'est long, une saison régulière. C'est le constat qu'on se fait. Il y a toujours des temps morts, et notamment le mois de mars est un temps mort. C'est un fait chaque saison. C'est peut-être le moment où la saison régulière devrait se terminer en mars. Mais aujourd'hui, bah, il y a 82 matchs et pas 70, donc, ou pas 65. Et il y a quelques temps morts, mais je n'ai pas l'impression que la saison régulière soit en.
Moi, je crois savoir que. Enfin, je comprends le sentiment parce que quand on regarde froidement, il n'y a que deux des équipes favorites qui ont vraiment tenu leur promesse, c'est-à-dire Boston et Denver. Il y a des équipes qui ont surperformé par rapport aux attentes. Hein. Peut-être que ces équipes-là, tu prends OKC, Minnesota, on s'attendait à de bonnes saisons, mais elles sont tout en haut. Il y a vraiment Boston et Denver parmi les gros favoris, et c'était les gros favoris de départ des deux côtés, qui sont au rendement optimal. Boston est un peu tout seul à l'Est, et Denver est à la lutte pour la première place à l'Ouest. Mais, et les autres, il y a beaucoup, tu vois, Dallas est un peu plus bas qu'espéré, Phoenix galère... Lakers, Warriors, enfin, toutes les grosses équipes ont un peu de mal. C'est aussi dû à la densité de l'Ouest, évidemment. Mais de l'autre côté, forcément, on peut penser à Milwaukee qui a mis beaucoup de temps à démarrer, à Philadelphie qui a perdu Embiid en cours de route, Miami qui est finaliste, qui s'accroche un peu. Donc je comprends le sentiment de peut-être de frustration pour les gens qui espéraient une plus grosse bataille en haut pour les premières places, enfin, ou la première place en tout cas à l'Est, et qui attendaient de voir les espèces de. C'est pas toutes des super teams, mais Phoenix, Dallas. Entre Kyrie, Luka, entre Booker, KD, enfin, a priori, ça devait être plus haut. Donc, je pense que c'est ça. Par contre, la saison en elle-même, je la trouve intéressante. Il y a des projets que j'aime bien voir se développer. Tu vois, je parlais de Houston juste avant. C'est pas une équipe qui joue le classement, en tout cas, qui aura du mal à accrocher le play-in. Mais j'aime bien voir les choses qui se passent là-bas. Même des équipes à l'Est, Indiana. Enfin, il y a plein de trucs qui sont intéressants, je pense. C'est peut-être sur la compétitivité de l'Est et sur le manque de compétitivité de certaines équipes à l'Ouest par rapport à leur potentiel qui fait que ça peut être un peu ça peut ressembler à une saison de transition, mais la vérité, c'est les playoffs de toute façon.
Pour l'Ouest, je ne sais pas, c'est un manque de compétitivité. En fait, c'est juste qu'il y a trop de bonnes équipes. Si les Mavs, ils jouaient à l'Est, ils seraient peut-être à 50 victoires eux aussi, en fait.
Oui,
tu vois,
certainement.
Je pense qu'aussi, il y a certaines attentes qui étaient du coup erronées. En fait. Par exemple, ceux qui s'attendaient à avoir les Suns à 60 wins, pour moi, c'était une des attentes erronées. Du coup, le problème ne vient pas du manque éventuel de compétitivité des Suns. C'est juste que les attentes n'étaient pas les bonnes. On pouvait s'attendre à ce que Dallas éventuellement soit dans le top 3. Il y avait un scénario comme ça. Mais à l'Ouest, c'est trop dur de prédire. Et c'est ce qui rend l'Ouest intéressant, je trouve. C'est de se dire qu'en fait, il y a tellement de bonnes équipes. Tu ne peux pas avoir... Forcément, elles ne peuvent pas être toutes à 55 victoires. Donc, le nombre de victoires baisse. Il y a des séries, il y a des trucs. parce qu'il y a énormément d'équipes talentueuses. Pour la course à l'Est, de toute façon, je pense que ce qui compte vraiment, c'est quelle sera l'intensité des playoffs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des blessures. Les Sixers n'étaient pas loin des Celtics, en fait, au moment où… Les Sixers avec Embiid, c'est 76% de victoire. Les Celtics, c'est 79% sur la saison. Donc, on peut imaginer que Philly n'aurait pas été loin en dessous. Il y a eu beaucoup de blessures à New York. Les Bucks ont eu quelques blessures, plus ce changement de coach qui les a un peu ralentis. Milwaukee était quand même plus près de Boston au moment où il y a le changement de coach. Tu vois, il y a Cleveland a joué avec 100 plein de cadres pendant un long moment, même si ça ne les a pas empêchés de gagner. Donc, ça fait partie du lot des saisons régulières qu'il y ait des blessures. Si on a des beaux affrontements en play-off, j'ai pas l'impression qu'il y a un manque de compétitivité. Après, oui, Boston roule sur sa conférence.
Non, il y a des belles histoires en plus, enfin, des projets intéressants à suivre. Tu vois, Orlando qui est quatrième là, qui a progressé fort. OKC de l'autre côté, personne ne les mettait premiers à l'ouest. Minnesota est un peu au-dessus. En ça, je trouve la saison intéressante parce qu'elle permet de voir le développement des équipes. Alors oui, on peut être déçu par certaines des équipes qu'on a évoquées, mais globalement, je ne la trouve pas inintéressante. Quoi.
De toute façon, les saisons, elles sont trop longues. Ça, c'est un fait. Ouais, saisons, elles sont trop longues. Et du coup, à un moment, il y a des équipes qui ne servent plus à rien.
Ouais.
Quand tu fais des saisons… Genre, aujourd'hui, les Raptors, ils ne servent plus à rien. Concrètement, ils n'en ont plus rien à secouer. Je pense que les Wizards et les Pistons, bah, ils essayent de gagner des matchs, mais tout comme les Hornets, tu vois, les Spurs, Blazers, les Grizzlies, à qui ils manquent quasiment tous leurs joueurs. À un moment, tu vois, même le Jazz essaye plus de jouer. Tu te rends compte que Mark Cannon est absent? Je sais même pas. Là, des fois, tu te dis, est-ce que il y a des équipes qui ont plus d'intérêt, ça devient trop long. Et là, ça va encore durer pendant encore deux, trois semaines. Ces équipes-là, elles vont encore jouer des matchs. C'est trop long, oui, je pense.
Faut bien sélectionner les matchs qu'on regarde, quoi. C'est tout.
Yes.
Allez, comme on parlait de la saison régulière, j'enchaîne avec une question sur les playoffs qui nous ont envoyé par Nat. Qui nous dit « Les playoffs approchent et on sait qu'entre la saison régulière et les playoffs, ce sont deux mondes différents. Quel serait votre top 3 des joueurs qui upgradent leur niveau en playoffs et à l'inverse, votre flop 3 des joueurs qui ont tendance à baisser leur perf en playoffs ?»
En numéro 1, on l'a vu récemment, enfin, Jimmy Butler quand même, c'est assez violent. C'est le shift, il est violent quand même. Il passe d'un joueur, d'un très bon joueur de la Ligue, niveau All-Star, il n'y a aucun souci, mais ça devient un mec inarrêtable. T'as l'impression qu'il est possédé en playoff. Hein. Donc, moi, je mettrais Butler. T'as des idées, t'as d'autres noms en tête, Antoine?
Ouais, Devin Booker.
Ouais, c'est
Devin Booker. Luca, en fait, la plupart des grands joueurs, même Luka Doncic, qui est excellent pour la saison régulière, il step up. Austin Reeves, mais il n'a pas assez de campagne de playoff. Mais l'an dernier, il y avait eu un vrai gap. Après, si on parle de manière générale. La plupart des grands joueurs haussent leur niveau en playoff. Je trouve que Butler et Booker, Butler, c'est le meilleur exemple parce qu'il en a rien, mais c'est parce qu'il en a rien à faire de la saison régulière. Donc ça explique aussi cet écart, c'est que si tu joues pas la saison régulière, forcément tu vois une vraie différence. Je trouve que Butler est le meilleur exemple. Booker aussi. Booker a vraiment tendance à. Mais je dirais que c'est vrai pour la plupart des grands joueurs. Et après pour les flops, bah évidemment on va aller vers Harden un peu. C'est un peu simpliste, je trouve, mais ça se comprend.
Et Joel Embiid un peu aussi. Un petit peu,
mais en fait, c'est pareil, tout dépend de ta saison régulière. C'est toujours des histoires de perception et de comparaison entre saison régulière et play-off. Donc, ça dépend du contexte et de ta base. Si ta base de saison régulière, elle est faible ou très élevée, c'est-à-dire qu'Embiid, il a un style qui devient parfois difficile à reproduire parce que les équipes vont encore plus doubler ou trapper, elles vont encore plus s'adapter. C'est une série de playoffs, il y a une différence différente.
Il y a un joueur qui… Enfin, ils n'ont pas disputé beaucoup de séries de playoffs, mais on a dit beaucoup de bien de lui cette saison, à juste titre, mais Karl Anthony Towns en playoffs, c'est très dur à regarder. Franchement, c'est compliqué. Il a beaucoup joué à l'envers sur les deux séries dont j'ai en tête. C'était vraiment, quand tu vois à quel point il peut être bon en saison régulière, là, notamment avec les Wolves jusqu'à sa blessure, ça change quand même pas mal.
Ouais, bon exemple.
Il y a des gens qui vont te dire Tatum, mais moi j'ai en tête la saison où ils vont en finale. Alors ces finales sont pas excellentes, mais juste avant il fait des séries assez dingues, donc je le mettrais pas dedans. Mais dans la perception générale, j'ai l'impression
en même temps, il était ciblé comme. Je sais pas, il s'est mangé la défense des Warriors, quoi. En face de lui, il y a Steve Kerr, il y a Draymond Green, il y avait un Andrew Wiggins motivé comme jamais, la seule fois où il a été vraiment déterminé au cours de sa carrière. Ah, tu vois, c'est pas n'importe qui tu as en face, quoi. Et puis tu sors d'une campagne où tu as porté ton équipe.
Il y a le cas Paul George aussi, Playoff P.
Playoff P.
Moi, bah, j'aurais rajouté peut-être genre 80% des mecs qui ont eu le trophée de meilleur sixième homme de l'année. Si tu regardes sur les 20 dernières années, c'est souvent des bons candidats aussi pour cette catégorie.
Ah, ça c'est très bien ça.
Donc observez Malik Monk alors au premier tour pour les Kings s'ils y vont.
Mais je pense que la plupart des grands joueurs ou des superstars, elles osent leur niveau de jeu en playoff en fait.
Allez, j'ai une question. Alors j'ai deux questions en fait de José qui concernent Denver. Je vais les poser l'une après l'autre. La première question, petite question perverse, il précise. Si vous étiez Mike Malone, sachant que la première place vous obligera certainement à un premier tour de playoff face à Phoenix, les Lakers, Golden State et potentiellement une demi-finale face aux Clippers, feriez-vous absolument tout pour être premier? Ne serait-il pas préférable de finir tranquillement deuxième et de reposer quelques cadres sur certains matchs?
Moi, je pense pas. Quand t'as la certitude, la confiance du champion, tu sais que avec les armes que t'as, tu peux battre n'importe qui. Le calcul, j'aime pas le calcul. Alors, ça a servi certaines équipes par le passé, pas forcément NBA, je pense à nos amis espagnols dans les compétitions internationales. Mais non, moi, réponse basique, je ferai pas reposer. Alors, si tu peux gérer le temps de jeu de tes stars, évidemment, tu vas pas foutre 44 minutes à Jokic. Si c'est la fin de saison régulière et que ça se joue à une place ou deux, tu fais attention, évidemment, tu fais un peu attention à la condition physique, mais tu les économises pas pour rien, tu joues le coup à fond quand même.
Moi, je suis pas sûr qu'ils vont jouer le coup à fond, mais je suis pas non plus dans le calcul, parce qu'en fait, de toute façon, la deuxième place, si tu finis deuxième, tu joues aussi une équipe du play-in, donc ça, tout ce qui a été dit avant, enfin, tu peux aussi te manger les Suns au premier tour en finissant deuxième, tu peux te manger les Mavs. Si les Mavs finissaient septième, c'est contre Dallas que tu joues, donc tu peux pas vraiment faire de calcul là-dessus. C'est vrai que le parcours m'a l'air un peu plus dégagé en termes de match-up, a priori, si tu es deuxième ou troisième, si tu es dans cette partie de tableau. Mais je pense pas qu'ils vont faire le calcul parce que de toute façon c'est la meilleure équipe à l'Ouest et en plus eux avoir l'avantage du terrain, c'est un vrai avantage du terrain à Denver parce qu'il y a de l'altitude. Donc en fait tout du long, si t'es sûr d'avoir l'avantage du terrain, c'est une vraie force plus que pour d'autres équipes. Maintenant par contre, je suis persuadé que les Nuggets, ils vont reposer des stars, peut-être plus, mais le Thunder aussi le fera à mon avis. Les Nuggets comme le Thunder sur les 4 derniers matchs de la saison, d'un coup, il y aura des mecs en moins. Les 4-5 derniers matchs, il va manquer du
monde.
Aucun des deux va vraiment jouer la
course. Est-ce que la course pour le MVP, ça va pas influencer ça aussi? Parce que s'ils sentent que Shea. Ouais, je sais pas. Mais non, Jokic, oui, on sait qu'il en a rien à secouer.
Mais même Shea, est-ce que jouer 79 matchs ou 75, ça
non,
change
je pense son, pas. Non, mais tu sais, du coup, le classement de OKC et de Denver peut influencer les votants. Ils disent, attendez, il a quand même fini. Il a quand même fini premier de l'Ouest. Il est obligatoirement. Ça doit être lui le MVP, tu vois. Mais je dis pas que c'est la bonne approche et la bonne réaction, mais.
Peut-être que le Thunder sera plus motivé à aller chercher la première place que les Nuggets. Mais je ne serais pas surpris que les deux reposent des stars sur la fin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme calcul, en tout cas.
Non, pas vrai.
Ni l'une ni l'autre des deux équipes.
Allez, je vais enchaîner avec la deuxième question de José, celle qui risque. On va voir si ça fait passer Antoine en mode Dark Pimel ou pas. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en playoff, on ne peut pas estimer qu'un Jamal Murray est supérieur à Damian Lillard? Leurs stats en points, rebonds et passes sont exactement les mêmes en playoff, mais Jamal Murray a de bien meilleurs pourcentages au shoot, 47% contre 41%, avec moins de balles perdues, presque une de moins.
Vas-y Antoine.
Non, attends, vas-y, commence. Je cherche
les stats en audio là. Non. Antoine, il a sorti une machette.
Ce qui va être très bien et très intéressant à voir ce débat là, ce qui va être très intéressant, c'est que là Lillard n'est plus déjà tout seul dans son équipe, tout seul, j'exagère volontairement, mais là il va être numéro 1 bis ou numéro 2 de l'équipe, il va avoir plus de soutien qu'avant. Jamal Murray est déjà dans cette position-là. Il a déjà Jokic avec lui. Il a aussi d'autres très bons joueurs. Donc, ça va être marrant de voir Lillard dans ce rôle, peut-être plus. Avec un tout petit peu moins de pression, peut-être. Enfin, l'attention des défenses adverses va aussi être tournée vers d'autres joueurs que lui. Alors que quand Portland était en play-off, avec le respect que j'ai pour CJ McCollum, qui est un très bon joueur, hein, mais c'est pas pareil que quand tu as aussi Giannis à gérer. Donc on n'en est pas là encore à mon avis. Mais Murray est un super joueur, attention. Hein. On a vu son, sa relation avec Jokic, ça a été fantastique l'année dernière.
Murray est un joueur de playoff, ça aurait pu rentrer dans la, dans la catégorie des mecs qui osent leur niveau de jeu. J'étais parti voir, je voulais juste voir les petites stats comparaison de la série entre les Blazers et les Nuggets qui avaient gagné Portland. Elles sont que légèrement à l'avantage de Lillard. Donc, je ne vais pas parler trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Lillard, il est l'attention première de la défense sur chacune des séries qu'il a jouées jusqu'à présent dans sa vie. Et je ne peux pas accepter qu'on dise que Murray soit un meilleur joueur que Lillard en playoff, surtout quand il joue avec Nikola Jokic, en fait. Je ne suis même pas sûr, et ce n'est pas du tout une attaque envers Jamal Murray, mais je ne suis pas sûr que si Jamal Murray il avait été à la place de Lillard, les Blazers auraient même été en playoff, très sincèrement. Après, Murray, c'est un super gunner. C'est un joueur clutch, c'est un joueur qui a du caractère, c'est un joueur qui a du leadership. C'est un joueur qui... En plus, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'il ne se laisse pas abattre. Il y a un truc, par exemple, par rapport à Lillard. Bon, alors, Lillard ne se laisse pas non plus abattre quand il ne rentre pas ses tirs, mais j'ai l'impression que Murray, il peut avoir un impact sans être un bon défenseur, sans être un bon passeur. Enfin, après, c'est un bon passeur, mais sans être un grand passeur, sans être un grand playmaker et sans être un grand défenseur. Je trouve que d'une manière ou d'une autre, il a un impact même quand il rate des tirs, juste par sa présence avec Jokic et la complicité qu'ils peuvent avoir. Mais c'est trop dur de... Tu peux pas prendre Murray sans prendre en compte le contexte Jokic, en fait. Mais individuellement, Lillard est un meilleur joueur. Faut pas déconner un moment quand même, les gars. Faut respecter un peu quand même.
Vous l'avez vu, vous voyez les yeux rouges là sur lui, là, le mode Dark Knight. Heureusement qu'on passe à une autre question.
Quand
là,
même. Vite. Lillard, il aurait joué avec Jokic. Il aurait un titre aussi quand même, on est d'accord. Je sais pas s'il aurait développé la même alchimie, mais... Enfin, je sais pas, on parle d'un mec, son meilleur coéquipier dans sa vie, ça a été CJ McCollum, bordel. Est-ce que les gens se rendent compte, quoi? Et LaMarcus Aldridge, brièvement, quand il n'était pas au sommet de son art, Lillard. Oh, quand même.
C'est beau. Bravo pour avoir permis à Antoine de passer en mode Dark Female. En plus, c'était trop bien ciblé de comparer Jamal Murray et Damian Lillard. C'était la sauce parfaite, impeccable. Bravo, José. Beau travail. Allez, on enchaîne avec une question d'Erwan. Question, alors là, plus... pour aller peut-être un petit peu plus en profondeur. Voilà ce que nous dit Erwan. La NBA est bloquée dans ce système à deux ligues. D'un côté, une ligue de développement constituée par une vingtaine de petits marchés dont le rôle consiste à recruter des jeunes à haut potentiel et à former les superstars de demain. De l'autre, une ligue élite constituée par une dizaine de gros marchés qui peuvent recruter Jaime Jaquez Jr. qui est NBA ready et ne sera jamais une superstar, mais sera parfait pour entourer des superstars qui arriveront via un trade ou la free agency. Sauf alignement des planètes exceptionnelles sur plusieurs années comme OKC, la draft ne permet pas d'équilibrer les forces entre gros et petits marchés. Faut-il repenser tout le système?
Alors, c'est pas alignement des planètes. C'est quand même un métier de bien drafter, de suivre ce qui se passe. Par exemple, la Miami, certes, a peut-être l'avantage sur... Je vais pas balancer n'importe quel nom d'autre ville. Miami est forcément plus attractif en tant que ville. Memphis. Forcément, un mec... normalement constitué dans sa vingtaine, va se dire je préfère vivre en Floride que qu'au Tennessee. Mais c'est aussi du bon travail de repérer Jaime Jaquez. Moi, j'ai suivi Jaime Jaquez à la fac tous les ans pendant 4 ans. Jamais je me suis dit qu'il serait aussi bon en NBA. Je me suis dit oui, ça peut être un petit complément sympa, mais je ne le voyais absolument pas à ce niveau-là. Et il faut des gens compétents pour faire ça. Donc, je suis le premier à déplorer, on en a parlé, c'était déjà dans un CQFR du samedi, je crois, sur les questions. Le côté gros marché, parfois, ça me lasse un peu de voir les Lakers et d'autres, et dans d'autres sports dont j'ai parlé, arriver et tabler sur leur prestige ou sur leurs moyens financiers pour... alors, NBA, ce n'est pas les moyens financiers, mais sur leur attractivité pour compenser d'éventuelles stratégies sportives moins pertinentes. Ça m'embête, parfois ça peut sembler déséquilibré, mais du coup ça donne plus de valeur encore à des projets qui sont pas basés sur ça. Donc OKC c'est super, il n'y a pas qu'OKC, il y a d'autres franchises qui travaillent bien sur la reconstruction via la draft, via des trades intéressants, bien pensés, des signatures bien pensées à la free agency. Donc oui, à la fois il y a un truc à deux vitesses, mais c'est pas l'alignement des planètes. Je pense pas qu'il faille attendre un miracle pour que ça fonctionne. Toronto a été champion, Milwaukee a été champion parce que Milwaukee a bien drafté avec un joueur exceptionnel qui n'était pas facile à drafter.
Bien développé.
Et a bien développé, donc il y a tout. Il y a le bon repérage de base, très bon développement et réussir à l'entourer au bon moment avec les bons joueurs. Donc c'est un travail, c'est pas de l'alignement des planètes du coup. Et les Raptors, il y a eu le move qui a tout changé, il fallait le tenter quand même. Tu vires, tu transfères le. C'est quoi? C'était le meilleur joueur de la franchise DeRozan, un des meilleurs joueurs d'histoire de la franchise même, et que tout le monde adore, et tu le trades pour une année de Kawhi Leonard, qui était en pleine embrouille avec les Spurs. Physiquement, on ne savait pas dans quel état il était. Donc c'est aussi un coup de génie. Donc il faut des décisions fortes, il faut des. S'il n'y a pas ces décisions-là, ce n'est pas que de l'alignement des planètes pour moi. Mais par contre, je suis d'accord, parfois c'est frustrant, à moins d'être supporter de ces marchés-là, de ces équipes-là, de se dire, bah ouais, ils arrivent, de toute façon, ils ont juste à attendre la prochaine superstar, et dans tous les cas, ils seront compétitifs à un moment.
En fait, je suis d'accord avec Pardon, c'est José? J'ai plus qui a posé la question.
Attends, je retrouve, je cherchais autre chose, pardon, j'étais
Erwan,
distrait.
je
Non,
crois. Erwan?
c'était Erwan, oui, Erwan, absolument.
Ok, alors je suis d'accord sur le fond, mais pas sur la forme. En fait, il y a une ligue à deux vitesses, mais ce n'est pas du tout une histoire de marché pour moi, plus à ce stade. C'est une histoire de qui travaille bien, en fait, pour tout ce que Dashaï a dit, pour bien drafter, bien développer. S'il y a des équipes qui sont au sommet, et globalement, souvent au sommet, c'est parce qu'elles bossent bien. Regarde, même Miami, hein. Miami, gros marché. Sur les 10 dernières années, il y a un seul free agent star qui a signé à Miami, c'est Jimmy Butler. Il n'y a pas un seul autre mec. Kevin Durant, il n'y est pas allé. Il a écouté, il n'y est pas allé. Gordon Hayward, il a écouté, il n'y est pas allé. Il y a des mecs qui ont demandé, oui, c'était dans la liste de Damian Lillard, c'était sa priorité. Mais au final, il n'y a qu'un seul joueur qui a choisi Miami à la Free Agency, c'est Jimmy Butler. Les stars, elles ne choisissent pas Miami. Miami, ils n'ont pas réussi à faire venir des stars au final. Il y a celles qui ont demandé leur trade qui n'ont pas obtenu. Paul George, Nico, enfin, tu vois, ces mecs-là, ils ne sont pas allés à Miami. Donc Miami est un gros marché, mais pas tant que ça au niveau de l'attrait des stars. Si Miami est souvent bien placé, c'est parce que Miami bosse très bien. Si Boston, c'est pas du tout un gros marché en termes de signature de free agent. Dis-moi un mec qui a signé à Boston à part Gordon Hayward, et encore, il y a un contexte un peu particulier. Il n'y a pas un mec qui a choisi Boston. Et là, depuis 20 ans, il n'y a pas un gars qui choisit de signer à Boston. Kevin Garnett, il voulait pas y aller à la base, c'est un
C'est un
trade, hein.
trade, ouais.
Kevin Garnett, Ray Allen, c'est des trades, c'est des mecs qui ont bien bossé, des
Et à
Daniels, des
contrario,
Brad
ouais,
Stevens.
pour aller dans le sens de ce que tu dis, donc les Warriors San Francisco et la Bay, c'est plutôt sympa. Enfin, les joueurs ont toutes les raisons de vouloir y aller. Même avant, je parle avant le début de la dynastie. Hein. Mais ils ont bien travaillé sans avoir de
Bien
free
sûr.
agent star, pas parce que il y aurait pu avoir des mecs qui disent ah, j'ai envie de kiffer en Californie, etc. Ou je viens de là, peu importe. Mais c'est parce qu'ils ont bien travaillé, ils se sont bien construits. Il y a eu la signature de KD qui éclipse un peu le truc, mais ils avaient été superbement construits via la draft et des signatures avant. Donc
Oui,
ça,
non, mais,
t'as raison, il y a
non, mais
ceux qui travaillent bien et voilà.
c'est de la draft, c'est du développement, c'est une volonté du propriétaire de payer, et ça, c'est pas lié au gros marché. Les propriétaires, ils sont tous milliardaires. C'est
Ouais.
lié à est-ce que tu es prêt à payer ou pas? Parce qu'à un moment, si tu as une équipe compétitive, il faut aller au-dessus de la luxury tax pour la garder. Alors, la seule équipe, le seul marché pour moi qui est encore à ce statut de gros marché, c'est Los Angeles. Peut-être éventuellement New York avec les Knicks à un moment, mais et c'est pas. Non, les équipes qui vont rester au sommet, surtout que maintenant on se dirige. Regarde, Milwaukee, c'est absolument pas un gros marché.
Non.
Milwaukee ne va jamais signer un free agent star. Il n'y a jamais un mec qui va dire, allez, je vais aller à Milwaukee. Ça n'arrive pas. Chicago, c'est la troisième ville des États-Unis. Il n'y a pas non plus de mecs qui ont spécialement envie d'aller jouer à Chicago. Je ne pense pas qu'il y ait cette logique de marché. Enfin, elle est de moins en moins claire. Elle existe encore pour Los Angeles. Elle est moins claire pour les autres. Elle le redeviendra peut-être pour New York. Je pense qu'il y a surtout une logique d'attrait, de franchise compétitive, de franchise qui bosse bien, qui se développe bien. Et pour. J'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. Je disais, maintenant, on est sur des superstars qui ont quand même apparemment une volonté un peu retrouvée de rester dans leur franchise de base. Si, par exemple, Anthony Edwards décide de rester aux Timberwolves vraiment, si c'est vraiment le cas, bah là, dans ce cas-là, ouais, il y a quelque chose. Il y a Minnesota qui est absolument pas un gros marché, se retrouverait bien placé. Si Shai Gilgeous-Alexander reste à OKC, OKC serait une des équipes du futur. Si Victor Wembanyama reste à San Antonio, Dallas, c'est un gros marché, mais c'est pas non plus un marché qui attire les free agents. Tu vois, c'est vraiment, je pense, une volonté. Voilà, c'est une histoire de, pardon, pas une volonté, une histoire de construction d'équipe, de comment ça se passe au sein de la franchise. Pour moi, c'est pas un hasard si les Pelicans, à un moment, ils ont perdu Anthony Davis, et ça sera peut-être pas un hasard si un jour ils perdent Zion, tu vois. C'est quand tu vois que c'est les mêmes équipes qui perdent les superstars, c'est là où tu peux te poser la question, bah, c'est pas forcément une histoire de marché. Regardons plutôt qui perd ces superstars plutôt que où elles décident d'aller. Regardons qui les perd.
Allez, pour finir, avant qu'on passe au quiz, une question signée Maestro Svengali. Pour changer un peu, je propose une question contraire à la tendance qui est de flatter le Heat et Jimmy Butler pour s'attirer les faveurs de Théo. Révolution. Il est commun de dire que Butler est l'alpha dog ultime, l'overachiever par excellence, le fils de Jordan en playoff, etc. Pendant que Tatum est parfois considéré comme un beau joueur mais sans killer instinct qui s'est fait manger par Wiggins en finale. Pourtant, leurs performances récentes et globales en playoff sont très proches, voire à l'avantage de Tatum. L'un des deux joueurs ne serait-il pas mésestimé, soit en sous-évaluant les accomplissements de Tatum, soit en survalorisant ceux de Jimmy Buckets, ou les deux. Comment s'explique donc cette différence de street cred ? Faut-il blâmer la propagande du dictateur Théophile Messer Ier ? Dar Spimel se joindra-t-il à ma rébellion ?
Non mais... Jimmy Butler, en... la différence c'est que Butler est dans... il a donné l'impression de porter l'équipe sur ses épaules tout seul pour les emmener en finale deux fois, pour ainsi dire. Deux fois, Théo vous le voyez pas, mais Théo, Jimmy deux fois, voilà, il montre bien. Alors que Tatum, il a toujours été dans un très bon collectif, les fois où les Celtics qui ont une régularité admirable hein, d'ailleurs, sur les... depuis que Tatum est là, il y a cette notion de constance. Tatum est le joueur lui-même individuellement qui a joué le plus de matchs en NBA depuis qu'il a été drafté. Et je pense que les deux, c'est pas indissociable. C'est-à-dire que Butler, c'est factuel, c'est un monstre en playoff. Hein. Deux fois en finale en quatre ans, on parlait sur une des questions précédentes. Il augmente son niveau de jeu de manière incroyable et on a vu des choses absolument dingues. On a vu Jrue Holiday se décomposer face à Butler alors que c'est le meilleur défenseur de la NBA. Il l'a dit lui-même et ses coéquipiers l'ont dit. Il a voulu essayer de le prendre en un contre un, il n'a pas réussi, l'autre il marchait sur l'eau. Donc Butler, c'est un alien en playoff, ça, c'est, je pense que c'est incontestable, en tout cas sur les dernières années. Et Tatum peut-être, et peut-être du coup devenu un peu sous-côté. Moi je ne veux pas rentrer dans la comparaison forcément entre les deux en fait. C'est-à-dire que je pense que Tatum c'est un super joueur et qu'il lui manque juste le titre pour passer ce statut. Les gens ne vont pas le louper en disant mais il est au sein d'une super équipe, donc s'il ne gagne pas c'est pas normal. Mais on en revenait aussi à ça juste avant. En playoff, moi, je l'ai souvent trouvé excellent. Il a des décès première saison, d'ailleurs. Contre les Cavs de LeBron, il fait des super, il fait des belles performances. L'année où ils vont en finale NBA, je n'ai pas sous les yeux, mais ses stats avant les finales, elles sont exceptionnelles. Il fait des matchs de très, très haut niveau. Il lui manque peut-être, je sais pas ce qui lui manque en fait. Je sais pas ce qui lui manque pour qu'il y ait ce saut, peut-être juste un titre maintenant, parce qu'on attend que ça des Celtics, mais.
Pour moi, c'est que une histoire de résultat en fait. La perception, elle est que liée au résultat, c'est-à-dire que Miami, les années où Miami va en finale, Miami n'est pas du tout attendu à ce stade. Donc, ça donne l'impression. Tu vois, par exemple, j'aime pas cette idée, Butler, il a porté son équipe tout seul. On ne cesse de répéter que le Heat a le meilleur collectif, le meilleur coach. Donc, bien sûr qu'il a profité d'un collectif aussi, Butler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Butler, c'est une superstar en playoff. Moi, je ne pense pas que les performances de Butler en playoff, elles soient surestimées. Il a eu des ratés, hein, comme toutes les stars. Hein. Faut pas oublier, hein. Milwaukee, les mêmes équipes des Bucks. Butler, il ne leur met même pas 15 points de moyenne sur la série où les Bucks se baladent contre le Heat juste après la finale en 2020. Il y a aussi des ratés. Par contre, il répond présent en playoff. Il assume son niveau de jeu. Il se comporte comme un top 10 player en playoff, Butler. Mais Tatum aussi, en fait. La différence, c'est que les Celtics, ils sont attendus parce qu'ils ont toujours été en haut depuis que Tatum est arrivé en NBA. Il est arrivé dans une équipe forte quand il était déjà rookie. Et dès le début, ils font finale de conf. Et ils poussent les Cavaliers de LeBron en 7 matchs. Donc, depuis ce moment-là, il y a cette attente de « Ah, bah les Celtics sont censés gagner à un moment. » Donc, Tatum, il est jugé à travers ça. Et pour moi, c'est pas les performances de Butler du coup, qui sont surestimées, c'est celles de Tatum qui sont sous-estimées parce qu'on se dit « Ah, bah ils doivent gagner. Comment ça se fait qu'ils ne gagnent toujours pas ? Bah tiens, c'est lui la star. Donc, s'ils ne gagnent toujours pas, c'est que c'est avec lui qu'il y a un problème. » Et c'est peut-être le cas. Comme je l'ai déjà dit, moi, des fois, j'ai l'impression que des fois, il y a peut-être effectivement un truc sur lequel j'arrive pas à mettre le doigt. Mais je ne pense pas que Tatum soit un choker, loin de là. Je pense qu'au contraire, il aime justement ces moments-là parce qu'il a grandi avec Kobe Bryant. Il y a ce truc de « Ah, c'est le moment, c'est mon moment mais je... tout est une question de perception pour moi. Tout est une question de perception. C'est... Si là, demain, les Celtics gagnent, d'un coup, il y aura une image différente de Tatum. On dira « Ah, il a nous le premier, moi le premier, je dirais. Mmh. Ah, il a trouvé le truc, ça y est, ça, c'est fait. Tatum, c'est un grand maintenant. » On verra, mais je pense vraiment que c'est lié à des histoires d'attente et de résultats. Le Heat n'était pas attendu et deux fois ils vont en finale. Et Butler fait une série absolument monumentale contre les Bucks l'an dernier. Et ça joue dans les têtes, ça joue dans. Parce que derrière, sur la suite des playoffs, d'ailleurs, il est bon, hein, Butler. Il est très bon. Mais la vraie série où il est exceptionnel, c'est Milwaukee. Mmh. Derrière, il est. Alors, évidemment, peut-être pas à 100% aussi de sa santé, tu vois, mais derrière, il n'est pas. Il est pas. Tu vois, par exemple, Booker, il joue moins de matchs l'an dernier, mais Booker est le meilleur joueur des playoffs, en fait.
Ouais,
dernier.
Il est au nombre de points marqués et tout, il est exceptionnel. Ouais.
Tu vois, mais qui s'en souvient, au final? On retient ce truc parce qu'il a été monumental contre Milwaukee et ça marque les esprits. Miami, elle est en finale, mais Miami, elle est en finale aussi en se reposant sur un collectif absolument incroyable.
Allez, vous avez été bon, vous avez gagné le droit de participer au quiz de la semaine. Ce que je vous propose, alors c'est comme vous voulez. Donc déjà, c'est Florent qui nous a envoyé un quiz. C'est un quiz spécial Wembanyama. Il y a 10 questions sur Victor Wembanyama. Je vais vous lire la présentation du quiz avant. On peut faire comme d'habitude avec petit concours entre vous deux. Sinon, je vous propose, on peut faire un concours collaboratif. Certaines questions ne sont pas forcément évidentes. Donc je ne sais pas si vous voulez être ensemble ou être face à face, comme vous l'avez dit. Un mix des deux, allez. De toute façon, il n'y a pas de perdant. Vous êtes samedi, vous écoutez le CQFR, il n'y a pas de perdant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, petite présentation de Florent. Vous dites souvent craindre de trop parler du phénomène français Victor Wembanyama. Pour moi, qui suis un parfait basket-X, vous n'en parlerez jamais assez. Je suis fan total et je me réjouis de suivre sa carrière pendant encore de longues années. Donc voilà un quiz sur Wemby en 10 questions qui retrace sa jeune carrière. Première question. Wembanyama a commencé à jouer au basket à l'entente Le Chesnay Versailles 78 Basket. Quel autre joueur de ce club a été drafté en NBA?
Ça, c'est toi, Shaik. Moi, je ne peux pas savoir. Alors, attends.
Tariq Abdoulouane, non?
Bonne réponse de Shaik Mamou, qui commence très fort.
Ouais.
Oui. Olivier Saint-Jean à l'époque, mais oui. Tariq, je vous lis la réponse de Florent, qui a été formé pendant une partie de son adolescence fin des années 80. En 97, il devient le premier joueur français à évoluer en NBA, et ceci pendant 6 saisons. Il a également 45 sélections en équipe de France. Deuxième question. Victor Wembanyama commence sa carrière professionnelle avec le club de Nanterre 92 dans le championnat élite en 2019. Il n'a que 15 ans. Quelle est sa moyenne de points avec l'effectif pro lors de la saison 2019-2020 à 3 points près?
Donc, quand il avait 15 ans ?
3 points.
Ouais.
3 points, du coup.
Il a joué ? Non, il donne pas le nombre de matchs dans la... 3 points, mais il est marqué. Est-ce qu'il jouait seulement 3
points. Ou 4 points. 4 points, si je me mets plus à l'abri.
Je vais dire 3 aussi. Ouais. Je n'ai aucune idée.
0. À la suite de ses bons résultats avec l'équipe Espoir de Nanterre 92, l'entraîneur 3, Pascal Donadieu le convoque. De quoi ?
Avec 3, on était bon.
À 3, c'est bon, absolument. Donc, Pascal Donadieu, le coach, le convoque le 26 octobre 2019 pour son premier match avec l'effectif professionnel de Nanterre à l'occasion de la réception d'Orléans, une défaite 63-68. Il n'entre toutefois pas en jeu. Le 29 octobre 2019, il entre en jeu à l'occasion de la réception de Brescia, 65-73 en Eurocoupe, pour 31 secondes en fin de rencontre.
31 secondes et 18 contre.
Troisième question. Lors de la saison suivante avec Nanterre, Victor est élu meilleur espoir du championnat de France et il est déjà en tête d'une catégorie statistique. Laquelle ?
Les contres.
Bah, les contres, oui.
Les contres. Et oui, Victor finit meilleur contreur de la compétition avec 1,9 contre par match. Facile. Enfin, belle réponse malgré tout. Quatrième question. Victor participe à la Coupe du Monde des U19 en 2021 avec la France, une compétition où la plupart des joueurs ont 2 ans de plus que lui. La France s'incline en finale de 2 points face aux États-Unis, 83-81. Victor Wembanyama est nommé dans le 5 majeur de la compétition. 3 autres joueurs depuis draftés en NBA sont dans ce 5. Qui sont-ils ?
Chetan Green et Kenneth Lofton Jr.
Non, Lofton, il n'est pas drafté, il est undrafté, je crois.
Il n'est pas drafté ?
Alors, Chetan Green, bonne réponse. Il en manque 2 autres.
Lofton, il est MVP de la finale ? Enfin, MVP de...
Ouais, Lofton, il est MVP de la finale.
Mais il n'est pas drafté, je crois.
Est-ce que Jalen Green, il est dedans ?
Non.
Tyrese Maxey ?
Est-ce que c'est un autre Américain, du coup ?
Non.
Forcément, ouais.
Alors, je vous donne, il y a un autre Américain et un autre joueur international.
Alors Jaden Ivey ?
Bonne réponse.
Ah ouais, Jaden Ivey, putain. J'ai compris.
Et un international, t'as dit ?
Ouais.
Fort, Shai.
Attends.
Un international ? Alperen Şengün. Non, il est trop vieux.
Alors, cette classe de là, est-ce que c'est... Jovic ?
Shai maîtrise, absolument. Nicolas Jovic, magnifique performance de Shai.
Je l'avais regardé ce point, quand même.
Et le cinquième joueur qui complétait le meilleur 5 de la compétition est le Canadien Zach Edey.
Ah oui.
Cinquième question.
C'est le mec de Purdue ?
De Purdue, ouais. Géant.
Avec les Mets, lors de la saison 2022-2023 en championnat de France, Victor bat de nombreux records pour un joueur de moins de 20 ans dans le championnat de France. Par exemple, lors d'un même match, il dépasse la marque de Tony Parker pour ce qui est des points, 33 points contre 32, et égale le record d'un joueur actuel de NBA quant à l'évaluation, 41. Quel est ce joueur ?
Alors attends, de moins, donc un joueur du championnat de France qui avait moins de 20 ans et qui a fait une meilleure évaluation.
Ouais.
Et qui est allé en NBA après.
Attends, et qui joue aujourd'hui en NBA, mais qui a joué en France.
Ouais.
Et Eli Okobo ?
Non.
Mais qui joue, qui joue aujourd'hui en NBA, qui est en NBA actuellement.
Il joue en NBA, Okobo. Ouais.
Bah, Evan Fournier ?
Non.
C'est un Français ou quoi ?
Non.
Ah, ok.
Il est francophone, par contre.
Clint Capela.
Bonne réponse.
Bien joué.
Bonne réponse,
j'ai été
Antoine.
Aidé, hein. J'ai été
aidé. En marchant sur le CSP Limoges, 33 points et 41 d'évaluation lors d'une victoire 78-69 en novembre 2022. Non, ça, je vous ai déjà dit, peut-être. Non, Victor Wembanyama a presque battu tous les records de précocité de l'histoire récente du championnat de France, en faisant notamment mieux que Tony Parker lors de son époque au Paris Basket Racing. Le phénomène des Metropolitans 92 a donc rejoint Clint Capela dans les livres d'histoire de la Betclic Elite, à l'époque c'était Proa, puisque le pivot d'Atlanta était jusque-là l'unique détenteur du record de la meilleure performance pour un joueur de moins de 20 ans, le seul jeune à avoir dépassé la barre des 40 d'évaluation, sauf que l'ancien Chalonnais l'avait réalisé à 19 ans et 8 mois, alors que Wemby n'a même pas encore fêté son 19e anniversaire.
C'est vrai qu'il était monstrueux Capela quand même en France. Hein.
Ouais.
Avec Chalon, ouais. Allez, sixième question. Après 4 matchs à plus de 30 points avec les Mets, Victor Wembanyama est aussi le troisième joueur de 18 ans ou moins à atteindre les 500 points cumulés en championnat de France. Tony Parker est l'un des deux. Quel est le second ?
Evan Fournier. Attends, donc c'est les joueurs français qui ont atteint les 500 points avant un certain âge, pardon. Faut que tu...
C'est ça.
Rigaudeau ?
Bonne réponse.
Ouais. Je l'aurais jamais eu. Bien joué.
Ouais. Sorti le gros nom, quoi. Parce que...
Bonne réponse.
Yann Bonato.
Ouais, j'aurais misé sur Rigaudeau ou sur Dubuisson. Mais... Bonne réponse avec Antoine Rigaudeau. Septième question. Wemby est drafté numéro 1 de la draft 2023 par les Spurs. Lors de la draft 2022, les Spurs avaient sélectionné au premier tour 3 joueurs. Qui sont-ils ?
2022 ?
Jérémy Sohan.
Ouais.
Oui. Bonne réponse.
Branham.
Bonne réponse.
Et comment il s'appelle ?
Primo, c'est cette année-là ? Non, c'est pas Josh Primo.
Putain, je le vois en plus. Hein. Blake Wesley.
Bonne réponse. Et Chai, il est intouchable sur les quiz.
On parlait avec Benjamin il n'y a pas longtemps de Blake Wesley.
Chai
est
très, très chaud.
Tu sais que...
Blake Wesley.
Je ne veux pas savoir le contexte de la journée qui t'amène à parler de
Blake Wesley. On parlait des joueurs à problème avec les Dominique Barlow. Et voilà, parce que c'est les joueurs auxquels il a plus accès qu'à Victor, voilà, pour tout dire.
Allez, huitième question. Le 29 décembre 2023, contre les Blazers, Victor inscrit 30 points, réalise 7 contres, prend 6 rebonds et délivre 6 passes décisives en 24 minutes. C'est seulement le second rookie de l'histoire de la NBA à enregistrer de telles statistiques dans un match depuis David Robinson en 1990. Quels autres joueurs dans l'histoire de la NBA ont réussi à compiler de telles stats en moins de 30 minutes ?
Donc c'est 30...
Il y en a plusieurs,
30...
alors quels autres joueurs ?
Hakeem Olajuwon ?
Non.
Attends, mais c'est possible de...
Redonne-nous, donc 30 points.
7 contre.
30 points, 7 contre, 6 rebonds, 6 passes en moins de 30 minutes.
Anthony Davis ?
Non.
Ça m'exaspère, ce quiz.
mais...
J'ai une question sur le basket allemand, si tu préfères, Antoine.
Non, ça va, putain. Je préfère quand c'est moi qui pose des questions. Normalement, je suis pas si mauvais en culture basket. Hein. J'ai l'impression d'être nul avec les quiz. Là.
C'est une question piège. Je vous précise, c'est une question piège.
Andrei Kirilenko, il a fait ça avec 30 points, j'y crois pas.
Non, si c'est piège, c'est qu'il y a personne, en fait, c'est ça ?
C'est qu'il y a personne, ouais, aucun. Ouais. David Robinson et Victor Wembanyama sont les seuls à avoir réussi cette performance.
Ouais.
Bon, non, en plus, c'est la première fois depuis 90.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on sortait des joueurs Ok.
Le 10 janvier 2024, contre les Pistons, Victor réalise son premier triple-double avec 16 points, 12 rebonds, 10 passes en 21 minutes de jeu. Combien a-t-il perdu de balles ce jour-là ?
7.
Presque.
6. 3.
Aucune. Passons à la dernière question.
Presque. Bah, tu sentais qu'on allait s'embourber là.
Ah, par contre, c'est fort. Hein.
C'est fou, ouais.
C'est assez dingue. Allez, dernière question. Le 12 février 2024, Victor Wembanyama réalise son deuxième triple-double en carrière contre les Raptors avec 27 points, 14 rebonds, 10 contres, 5 passes décisives, 2 interceptions en 28 minutes de jeu. Il devient le premier rookie à réaliser un triple-double avec des contres depuis David Robinson en 1990, ainsi que le premier joueur à le faire en NBA depuis Clint Capella en 2021, mais aussi le cinquième joueur de l'histoire de la NBA à compiler au moins 25 points, 10 rebonds, 10 contres et 5 passes décisives sur une seule rencontre. Les 4 autres sont des Hall of Famers. Qui sont-ils ?
Hakeem Olajuwon.
Bonne réponse.
Donc David Robinson.
Bonne réponse.
Kareem Abdul-Jabbar.
Bonne réponse. Ouais. Nous n'avons qu'un dernier.
Et c'est un moins connu. C'est un mec des années 70 ou 80.
Oui.
Ok. Moses Malone ? Non. Il n'y avait pas encore. Ah, il n'y avait pas encore les...
Sampson ?
Bonne réponse. Ralph Sampson.
Très joli.
Donc, comme quoi, c'est vraiment une spécialité des joueurs du Texas, parce que tu en as quand même 4 sur les 5 qui ont joué dans le Texas. Vous avez été bons tous les deux. Merci encore à Florent pour le quiz. Comme d'habitude, ouais, je reprécise, vous êtes plusieurs à avoir envoyé des quiz. On se les met de côté, on s'en servira probablement. En tout cas, merci de passer du temps et de nous envoyer tout ça chaque semaine. C'est vraiment super.
Yes, ouais, merci, merci à tous, merci pour vos questions, merci pour vos quiz, continuez, hein, comme a dit Théo, n'hésitez pas, passez un bon week-end, vous retrouverez sur la chaîne YouTube, comme d'habitude, le Moop Deep et le Hoop Culture le dimanche, donc le Moop Deep c'est le samedi, le Hoop Culture c'est le dimanche, n'oubliez pas, le MOOC est toujours disponible, il est en vente, le MOOC Spurs, 240 pages dédiées à San Antonio, aux Spurs, à la mascotte, à Tim Duncan, David Robinson, Dennis Rodman, Greg Popovich, Tony Parker, Manu Ginobili, bref, toutes les légendes de San Antonio Spurs, c'est disponible dans le MOOC qui lui-même est disponible sur le shop de Basket Session, basketsession.com. Allez faire un tour, je suis sûr que ça peut vous intéresser si vous aimez le basket et la NBA. C'est pas une obligation bien sûr, mais n'hésitez pas. Et d'ici là, passez une bonne journée, un bon week-end, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.
Bon week-end.
Salut à tous.